Prévert.
Ne me considère pas comme un poète. Je ne trouve pas particulièrement de la poésie dans les poèmes. La poésie, qu'elle soit transport, invention ou musique, est toujours un impondérable qui peut se trouver dans n'importe quel genre. Soudain, élargissement du monde.
Ça peut pas faire de mal.
Sa densité peut être bien plus forte dans un tableau, une photographie, une cabane. Tu comprendras qu'un poète ne puisse rien dire de la poésie. Laisse cela aux critiques et aux professeurs. Ni toi ni moi, ni aucun poète, ne savons ce qu'est la poésie.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soulographie alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas, la terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses quatre saisons. La pluie, la neige, le grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne, la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Elle s'en fout, la terre. Elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne, elle n'arrête pas de tourner. Et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère. Et le sang des hommes torturés dans les prisons. Et le sang qui arrive et qui coule à grands flots, avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau. La mère qui crie, l'enfant pleure. Le sang coule, la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps. Sang caillé comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang. Ce poème universel sur la vie, la mort et les violences commises par les hommes est l'œuvre d'un grand écrivain du XXe siècle, populaire par sa poésie du quotidien et ses thèmes contestataires. Il s'agit de Jacques Prévert. Ce texte engagé, intitulé « Chansons dans le sang », est extrait de son plus célèbre recueil « Paroles », publié en 1946. Poète, scénariste, photographe et plasticien, Jacques Prévert, né en 1900 à Neuilly-sur-Seine, est mort il y a tout juste 40 ans, le 11 avril 1977. Les éditions Gallimard lui rendent hommage avec la réédition des œuvres complètes en Pléiade, ainsi que la publication de la correspondance avec son éditeur, René Berthelet, au cahier de la NRF. Ce soir, comme nous y invite Jacques Prévert, partons à la découverte d'une poésie à vocation universelle, non pas pour un tour du monde, mais pour la traversée d'un continent aux multiples visages, l'Afrique. Car l'Afrique est le thème de la 19e édition du Printemps des Poètes, qui s'ouvre aujourd'hui et qui se tiendra jusqu'au 19 mars. En même temps que l'anniversaire de Prévert, la manifestation célèbre cette année les 120 nuances d'Afrique, à travers une passionnante anthologie réunie par Bruno Doucet. Pour m'accompagner dans ce voyage poétique, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune et talentueux comédien qui vient de faire son entrée à la Comédie-Française, Gaël Kamilindi. Bonsoir Gaël.
Bonsoir Guillaume.
Vous avez 30 ans, vous êtes d'origine rwandaise, formé au Conservatoire de Genève, puis celui de Paris. Vous avez joué sous la direction de très grands metteurs en scène déjà, mon Dieu. Bob Wilson, Jean-Pierre Vincent, Christophe Warlikowski. Bon, ben c'est bien. Vous reprenez actuellement le rôle de Gennaro dans Lucrèce Borgia, qui se rejoue jusqu'en mai dans la mise en scène de Denis Podalydès avec la grande et sublime Elsa Le Poivre dans le rôle titre. Ensemble donc, faisons route vers le continent africain, entre autres, et ses riches contrées littéraires. Comme le dit Prévert, le sang de la vie n'est jamais loin du sang de la mort. Commençons avec l'une des grandes voix actuelles du Maroc, celle de l'écrivain Abdellatif Lahabi, né en 1942 à Fès. Intellectuel dissident, il a connu la prison de 1972 à 1980. Il vit en France depuis 1985, année où il est décoré des arts et des lettres. Découvrons l'un de ses poèmes engagés, qu'il a écrit à la mémoire de Brahim Bouaram, un jeune Marocain noyé dans la Seine le 1er mai 1995, victime d'un groupe de skinheads. Le poème s'intitule « Les tueurs sont à l'affût ». Il est extrait du recueil « Le spleen de Casablanca » publié en 1996 aux éditions de La Différence. Et je vous cède la parole, Gaël.
Mère, ma superbe, mon imprudente, toi qui t'apprêtes à me mettre au monde, de grâce ne me donne pas de nom, car les tueurs sont à l'affût. Mère, fais que ma peau soit d'une couleur neutre, les tueurs sont à l'affût. Mère, ne parle pas devant moi, je risque d'apprendre ta langue, et les tueurs sont à l'affût. Mère, cache-toi quand tu pries, laisse-moi à l'écart de ta foi, les tueurs sont à l'affût. Mère, libre à toi d'être pauvre, mais ne me jette pas dans la rue. Les tueurs sont à l'affût. Ah, mère, si tu pouvais t'abstenir, attendre des jours meilleurs pour me mettre au monde, qui sait, mon premier cri ferait ma joie et la tienne. Je bondirai alors dans la lumière, comme une offrande de la vie à la vie.
Quittons le Maghreb pour le golfe de Guinée. Plus au sud, découvrons l'Afrique anglophone avec l'une des figures majeures du Nigeria, l'écrivain Kinua Akebe, né en 1930 et mort en 2013. Il est l'auteur d'un roman, « Le monde s'effondre », publié en 1958, qui témoigne du choc des Africains lors de l'arrivée des colons blancs. Le livre est devenu un best-seller qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Voici un poème poignant, intitulé « Mère et enfants réfugiés », qui évoque la guerre du Biafra, qui, de 1967 à 1970, a fait 2 millions de victimes. Extrait du recueil « Beware Soul Brothers », édition Heinemann, 1971, traduction de Frida Ekoto. Nulle vierge à l'enfant ne pourrait se mesurer à cette image de la tendresse maternelle pour un fils qu'elle devait bientôt oublier. L'air était lourd d'odeurs, de diarrhées d'enfants non lavés, aux côtés des lavés et au derrière, des charnés qui avancent d'un pas laborieux, traînés par des ventres vides et gonflés. Tant de mères avaient cessé depuis longtemps de prodiguer leurs soins, mais pas celle-ci. Elle arborait un sourire fantôme entre ses dents, et dans ses yeux le fantôme de l'orgueil d'une mère, tandis qu'elle peignait la touffe de cheveux couleur rouille qui restait sur son crâne. Et puis, dans ses yeux, un chant. Elle a commencé à les séparer avec soin. Dans une autre vie, ça aurait été un peu banal. Un acte sans conséquence avec son petit déjeuner d'école. Mais en cet instant, son geste était de fleurir une tombe minuscule. Poursuivons notre voyage plus au sud encore, sur les rives du lac Tanganyika. Ancienne colonie belge, le Burundi accède à l'indépendance en 1960. Mais la lutte pour le pouvoir exacerbe les conflits entre les ethnies, dont les Hutus et les Tutsis, qui, comme chez leurs voisins du Rwanda, s'affrontent dans une longue guerre civile, qui a duré de 1993 à 2005. Le texte que vous allez nous dire, cher Gaël, évoque cette réalité tragique que vous avez connue vous-même pendant votre enfance, avant de prendre le chemin de l'exil. Écoutons désormais la voix d'une jeune femme, Kitty Nivyabandi, une poétesse née en 1978, qui tente de redonner souffle à un peuple essoufflé. Son poème s'intitule « Trois ethnies ». Il est extrait du recueil « Chants du métissage », publié aux éditions Bruno Doucet en 2015.
Trois ethnies, trois jolis sourires, trois jeunes destins, trois petites filles, trois éclats de rire qui chatouillent les manguiers. Elles jouent en cercle en se tenant la main, sandales et peur au vent, trois rêves ludiques, trois chansons. Un, deux, trois, elles sautillent, et petites nattes se hissent à l'horizon. Un, deux, trois, elles sautillent, six petits pieds se posent sur la terre fébrile, fraîchement violée par ses fils, féconde et porteuse en son sein de l'infâme. Un, deux, trois, et la terre minée s'ouvre, rugissante et béante, brûlante de petits monstres, elle avale les trois chansons. Trois petits bouts d'enfance s'envolent en éclats, trois rêves déchiquetés, trois rires muets, trois destins étouffés, trois boutons de fleurs écrasés. trois chants inachevés. Un, deux, trois pleurs identiques s'élèvent dans un ciel désastré. Trois silhouettes vêtues d'imvutan au noir s'allongent, cheveux rasés, âmes calcinées. Trois mers, trois plaies, trois cœurs fendus à jamais, Hutu, Tutsi, trois ethnies. Une seule agonie, un seul fleuve de larmes qui s'écoule et s'écoule à l'infini. Et ce silence, le silence lourd et écarlate du sang des innocents.
Listen to the sanguine sing, blissful trickle ringing, mystic charm and mingling, sensuously stinging. Beauté fatale, sang du printemps, reaching for the light, resonation, buzzing with delight, wobbling on, googly.
Césaire.
Il y a vraiment une sorte de mémoire, d'au-delà de la mémoire. Mais ces grands coups de sonde que constitue l'acte poétique, c'est ça que ça fait remonter à la surface en réalité. Certains motifs, le naufrage, le voyage marin, certaines visions. Eh bien, je m'en suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps. C'est qu'il y a vraiment pour moi ce choc, ce traumatisme provoqué par la traite des Noirs. Je ressens, presque comme une sorte de hoquet, ce sentiment de déracinement, de séparation d'avec quelque chose. Et la traite des Noirs, c'est une chose qui est pour moi un événement extrêmement important et je dirais presque vécu.
Nous voici désormais en Afrique du Sud où le souvenir d'une autre guerre résonne encore. Sous l'apartheid, une jeune poétesse dissidente, Ingrid Jonker, et renié publiquement par son père, alors député du Parti National et président de la commission de censure. La jeune femme se suicide en 1965 à l'âge de 32 ans. 30 ans plus tard, en 1994, une autre victime du pouvoir, Nelson Mandela, lui rend hommage lors de son investiture, en citant son plus célèbre poème, écrit en langue afrikaans. Découvrons ce texte devenu le symbole de la révolte, dédié à un enfant mort sous les balles d'un policier blanc. L'enfant n'est pas mort. L'enfant lève les poings contre sa mère, qui crie Afrique, crie l'odeur de liberté, du veld, dans les townships du cœur ceinturé. L'enfant lève les poings contre son père, au défilé des générations, qui crie Afrique, crie l'odeur d'équité, de sang, dans les rues de sa fierté guerrière. L'enfant n'est pas mort, ni à Langa, ni à Nyanga, ni à Orlando, ni à Sharpeville, ni au poste de police de Philippi, où il gît une balle dans la tête. L'enfant est l'ombre des soldats, en faction avec fusils, blindés et matraques. L'enfant est de chaque meeting, de chaque loi. L'enfant lorgne par les fenêtres et dans le cœur des mères. L'enfant qui voulait simplement jouer au soleil de Nyanga est partout. L'enfant devenu homme traverse toute l'Afrique. L'enfant géant voyage de par le monde, sans laisser passer. Après les guerres, découvrons une autre violence, économique. Elle est la forme moderne de l'esclavage, l'exploitation des Noirs par l'activité industrielle. Au Mozambique, ancienne colonie portugaise, un célèbre poète défend à son tour la cause de la négritude, l'historien et journaliste José Craveirinha, né en 1922 et mort en 2003. Pour avoir dénoncé la domination coloniale, il a connu la prison dans les années 60. Voici l'un de ses poèmes, ancré dans la réalité quotidienne, qui s'intitule sobrement « Personne ». Traduit du portugais par Marie-Claire Vormans.
Des échafaudages jusqu'au 15e étage de l'édifice moderne en béton armé. Le rythme forestier du ferraillage dressé architectoniquement dans l'air et un passant curieux qui demande « Quelqu'un est-il déjà tombé des échafaudages ?» Le ronronnement modéré des moteurs aux huiles lourdes et la réponse tranquille de l'entrepreneur « Personne ». Rien que deux noirs.
Revenons en Afrique centrale, au Niger, où les Touaregs déplorent à leur tour la même perte d'identité. Né à Agadez en 1972, Rissa Rossé est infirmier et poète. Mémoire vivante des peuples caravaniers du Sahara, son écriture incandescente transmet la douleur du désenchantement. Écoutons deux de ses complaintes au ton vibrant, « Pas de nom » et « Nomade ». Deux courts poèmes publiés dans le recueil « Jour et nuit, sable et sang » aux éditions des Transbordeurs en 2005.
Pas de nom. Non, frère d'outre-mer, surtout pas de nom. Je ne suis pas le fils du vent et des nuages, je suis le fils de la fange. De la fange stérile et rouge. Sable, montagne et pierre. Je suis le fils de la terre, maternelle. Silence, oubli, mépris. Je suis l'enfant des douleurs éternelles. Non, frère, je ne suis plus le seigneur du désert, mais l'esclave des horizons nus. Nomades. Hier encore, ils comptaient les étoiles. Ils avaient tout le temps et tout l'espace. Solitaires et libres, n'écoutant que l'écho de leur voix. Aujourd'hui, contrariés, leurs lourds voiles obstruent leurs regards, et ils ne peuvent compter les étoiles. Pourtant encore ils rêvent, leurs rêves lumineux, comme la voie lactée, et en suspens dans le champ des canons. Leurs mouvements pris en otage, dans le filet des frontières, héritiers d'une époque sans gloire, les fils du vent et des étoiles font du silence et de l'oubli leur triste mélodie.
En réponse au désespoir, un autre poète parie sur l'avenir. Nous voici sur la côte atlantique, en Guinée équatoriale, ancienne colonie portugaise puis espagnole. Né en 1951, Analecto Olomibui est théologien, prêtre et dissident politique. Longtemps exilé en Europe, il s'est réinstallé dans son pays natal pour y fonder un journal. Il a publié deux recueils de poésie. Découvrons l'un de ses poèmes au ton lyrique, « La voix des opprimés », qui s'élève comme une prière. Traduit de l'espagnol par Graciela Villanueva, extrait de l'anthologie « Poésie d'Afrique du Sud du Sahara » chez Actes Sud UNESCO 1995. Mes poèmes seront lus un jour, sous mes arbres, sans toi, ni vers ni d'air. Ce sera la vieille accroupie avec son panier de mémoires illettrées. Les arbres fins de morts injustes liront et la terre remuera en épaississant la mélancolie d'un soleil neuf. Sous les tombeaux, des squelettes de noirs invisibles assis sur leurs bancs de damnés se lèveront. Alors ma poésie accusera. Elle mettra dans chaque bouche d'os la sentence et le fouet macabre de pénitence. Tous les morts et les orphelins, perclus de misère, se lèveront. Un doigt de papier aplati signalera parmi les vivants de l'histoire l'assassin de la liberté. C'est là que ma poésie funèbre et mes lignes de liberté cruelle seront lues. Elles chanteront les exploits ensevelis dans chaque fleur et dans chaque arbre. Morts et vivants au cœur griffé par n'importe quelle noire injustice, mes poèmes appelleront à la résurrection avec la voix de ceux qui ne l'ont pas eue, avec la voix des opprimés. Dans le pays voisin, au Cameroun, une autre voix fait entendre son chant d'espoir, faisant la connaissance d'une artiste au talent inclassable, Werewear Liking, née en 1950. Dramaturge et peintre, elle dirige actuellement une galerie studio de danse, la Villa Kiyi, à Abidjan. Voici l'un de ses poèmes intitulé « Pouvoir ». Mais il n'est pas question ici de domination ni d'exploitation, au contraire. Ce poème se fait le porte-parole d'un message d'amour et de paix. Extrait du recueil « On ne raisonne pas le venin », publié en 1977 à Saint-Germain-des-Prés. Il est des mots comme des baumes. Ils adoucissent et laissent un goût de menthe. Il est des regards comme de la laine d'agneau. Ils enveloppent et réchauffent dans la caresse. Il est des sourires comme des pleines lunes. Ils illuminent avec intimité. Pouvoir. Pouvoir regarder. Pouvoir déceler. Pouvoir deviner. Pouvoir sentir et être heureux. Il est des promiscuités enivrantes. Et des frôlements, des caresses de soleil, furtives et discrètes et excitantes, elles laissent un goût d'attente. Pouvoir, pouvoir sentir et être heureux. Il est des caresses alarmantes qui laissent sur le qui-vive. Il est des noms qui augurent du destin et des phrases comme des décrets pour déceler, pouvoir et être heureux. Il est des visages comme des proverbes, énigmatiques et symboliques. Ils appellent à la sagesse. Parce que la vie, c'est l'avenir. Et que l'avenir, c'est toi.
Pourquoi cette passion de la langue française ?
Cette passion de la langue française, parce que c'est une langue belle.
Léopold Sédar Senghor.
C'est une langue belle et... Les négros africains qui sont sensibles au rythme, à la mélodie, l'ont remarqué. Je me rappelle du temps de mon enfance, quand il y avait une sécheresse prolongée, les femmes du village s'organisaient pour faire rire Dieu. Alors, ils s'habillaient à la française, avec des pantalons, des casques, des verres fumés, et ils se mettaient à baragouiner le français en insistant sur les finales, car ils avaient bien remarqué le rythme de français. « Monsieur, voulez-vous me dire bonjour ?» Et elle se mettait à tirer des coups de fusil, n'est-ce pas, pour faire rire Dieu. Mais donc, elles étaient sensibles aux qualités mélodiques et au rythme du français. Et je me rappelle, quand j'ai commencé d'apprendre le français, je mangeais les mots comme de la confiture.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ikoi be kodon, kodon.
avançons dans le temps, 3 générations plus tard, qu'est devenu cet espoir en l'avenir. Après le combat pour la négritude, l'époque de la décolonisation, les guerres ethniques, les guerres économiques, abordons le présent, à travers une jeune poétesse qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Wasson Shire. Elle est née au Kenya en 1988 de parents somaliens qui ont émigré au Royaume-Uni où elle a grandi. Ses performances font le tour du monde via Internet. Découvrons son poème « Home », qui traite d'un sujet brûlant d'actualité, l'immigration. Traduit de l'anglais par Paul Tanguy.
Personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin. Tu ne cours vers la frontière que lorsque toute la ville court également, avec tes voisins qui courent plus vite que toi. Le garçon avec qui tu es allé à l'école, qui t'a embrassé, ébloui, une fois derrière la vieille usine, porte une arme plus grande que son corps. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire, jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou. Et même alors, tu portes encore l'hymne national dans ta voix quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en sanglotant à chaque bouchée de papier, pour bien comprendre que tu ne reviendras jamais en arrière. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre ferme. Personne ne se brûle le bout des doigts, sous des trains, entre des wagons. Personne ne passe des jours ou des nuits dans l'estomac d'un camion, en se nourrissant de papier journal, à moins que les kilomètres parcourus soient plus qu'un voyage. Personne ne rampe sous un grillage. Personne ne veut être battu, pris en pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés ou la prison, à moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite, de laisser tes habits derrière toi, de ramper à travers le désert, de traverser les océans, noyer, sauver, avoir faim, mendier, oublier sa fierté. Ta survie est plus importante.
Quittons l'Afrique et mettons le cap vers l'Amérique centrale. Nous voici en route vers d'autres territoires métissés, les îles Caraïbes. Patrie d'Aimé Césaire et de Louis Gontran Damas, les Antilles françaises sont à l'origine du mouvement de la négritude. Évoquons à présent l'écrivain guadeloupéen Guy Tyrolien, né en 1917 et mort en 1988. Il est l'auteur d'une célèbre « Prière d'un petit enfant nègre », publiée dans le recueil « Balle d'or » en 1961. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés, qui longent vers midi les mares assoiffées. Je veux dormir ma sieste au pied de lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des blancs, et que l'usine, ancrée sur l'océan des cannes, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit, dans la nuit, la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de compère Lapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans leurs livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter de comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école.
J'étais pour la négritude avant la négritude. Oui, parce que c'est une affaire de famille, en quelque sorte.
Guy Tyrolien.
Dans ma famille, on a toujours considéré que c'était une question importante. Et l'honneur d'être noir, en quelque sorte, dans un pays où le noir se renie lui-même. Du temps où j'étais jeune, le noir se reniait lui-même, inconsciemment d'ailleurs, sans le faire volontairement. Il vivait dans une société dont toutes les valeurs étaient blanches et occidentales.
Abordons le nouveau continent et écoutons la voix des Afro-Américains. Découvrons désormais une personnalité qui a marqué Harlem dans les années 20, l'écrivain Langston Hughes. Né dans le Missouri en 1902, mort à New York en 1967, il a favorisé l'émergence de nombreux artistes noirs. Auteur de la première anthologie de poésie négro-africaine en 1966, il a été le modèle d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Voici un texte inédit, au ton revendicatif, qui défend l'identité noire. Traduit de l'anglais par Thierry Gilibeuf.
Je suis un noir, aussi noir que la nuit noire, aussi noir que les profondeurs de mon Afrique. J'ai été un esclave. César m'a ordonné de nettoyer son perron. J'ai ciré les bottes de Washington. J'ai été un ouvrier. Sous sa main, les pyramides se sont dressées. J'ai fait le mortier pour le Woolworth Building. J'ai été un chanteur. Sur la route de l'Afrique à la Géorgie, j'ai emporté mes chansons tristes. J'ai inventé le ragtime. J'ai été une victime. Les Belges m'ont coupé les mains au Congo. On me lynche encore au Mississippi. Je suis un noir. Aussi noir que la nuit noire. Aussi noir que les profondeurs de mon Afrique.
Traversons l'Atlantique et revenons sur la rive méditerranéenne de l'Afrique. Un grand écrivain marocain nous livre sa réflexion sur l'identité. Et si au-delà des frontières, les hommes partageaient la même errance universelle ? Voici un très beau poème signé Tahar Benjelloun, publié par le Printemps des Poètes. Il s'intitule « Éloge de l'autre ».
Celui qui marche d'un pas lent dans la rue de l'exil, c'est toi, c'est moi. Regarde-le bien, ce n'est qu'un homme. Qu'importe le temps, la ressemblance, le sourire au bout des larmes, l'étranger a toujours un ciel froissé au fond des yeux. Aucun arbre arraché ne donne l'ombre qu'il faut, ni le fruit qu'on attend. La solitude n'est pas un métier, ni un déjeuner sur l'herbe, une coquetterie de bohémien. Demander l'asile est une offense, une blessure avalée avec l'espoir qu'un jour, on s'étonnera d'être heureux ici ou là-bas. Tanger, 7 octobre 2007.
Tahar Benjelloun.
Pendant longtemps, on me posait la question, tu es marocain, arabe, et tu écris en français. Je dis bien sûr, c'est pas un choix non plus. J'ai été en classe, j'ai appris les deux langues. Je préfère écrire en français. Et je dis, mais en fait, je prends la langue française, qui est un outil, mais plus qu'un outil. Et je la promène dans des cités, dans des mémoires, dans des lieux, dans des territoires culturels et humains où elle n'aurait peut-être jamais pu entrer. Je fais entrer la langue française dans mon propre milieu, dans ma famille, dans ma mémoire, ma propre mémoire, et je raconte. Et je ne fais pas d'ethnologie à ce moment-là. C'est-à-dire que j'utilise le français, et je crois la plupart des écrivains maghrébins utilisent le français plus qu'un outil, mais il lui apporte une nouvelle couleur, quelque chose de neuf, je pense. Et moi, je ne me culpabilise pas du tout.
Étranges étrangers, Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumiant de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polac du Marais du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peut vous vous baigner, esclave noir de Fréjus qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts et ne venez dans la capitale que pour fêter, au Paca danser, la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Jacques Prévert, 1955.
Pour la fin de notre voyage, revenons en France un demi-siècle plus tôt. Retrouvons Jacques Prévert, avec qui nous avons ouvert cette émission. Le poète défend la cause des étrangers qui participent à l'économie de la France, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Toute son œuvre est peuplée de petites gens qui subissent l'oppression, qui connaissent la faim et luttent contre l'hypocrisie d'une société qui les méprise. Ouvrons à nouveau son célèbre recueil Paroles, publié en 1946 donc, qui donne justement parole aux sans-paroles. Écoutons certains de ses poèmes les plus engagés. Commençons par l'effort humain, ce texte violent, anticapitaliste, antimilitariste, anticlérical, qui dénonce le règne de la peur. L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche, avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre, ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes. L'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Il se nourrit de mauvais rêves et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur. Découvrons à présent un autre texte, « Rien à craindre », qui dénonce l'hypocrisie d'une société sclérosée. Publié la même année que Parole, il est extrait du recueil « Histoire ». Ne craignez rien, gens honnêtes et exemplaires. Il n'y a pas de danger. Vos morts sont bien morts. Vos morts sont bien gardés. Il n'y a rien à craindre. On ne peut pas vous les prendre. Ils ne peuvent se sauver. Il y a des gardiens dans les cimetières. Et puis, tout autour des tombes, il y a un entourage de fer, comme autour des lits cages où dorment les enfants en bas âge. Et c'est une précaution sage dans son dernier sommeil. Sait-on jamais ? Le mort pourrait rêver encore. rêver qu'il est vivant, rêver qu'il n'est plus mort, et secouer ses draps de pierre, se dégager, et se pencher, et tomber de la tombe, comme un enfant du lit, horreur et catacombe, retomber dans la vie. Vous voyez cela d'ici ? Tout serait remis en question. L'affection et la désolation, et la succession. Rassurez-vous, braves gens, honnêtes et exemplaires, vos morts ne reviendront pas. S'amuser sur la terre. Les larmes ont été versées une fois pour toutes. Et il n'y aura jamais plus à revenir là-dessus. Et rien dans le cimetière ne sera saccagé. Les pots de chrysanthèmes resteront à leur place et vous pourrez vaquer en toute tranquillité. L'arrosoir à la main, devant le mausolée, au doux labeur champêtre des éternels regrets.
Ils sont marrants les êtres, vous tout comme moi, moi tout comme vous. Et c'est pas du théâtre, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants les êtres en entrant chez les autres, il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit vous tombez bien, et on lui offre à boire et une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez retombe dans l'escalier, l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres, ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour.
Pour conclure cette émission, citons un poème plus lumineux, l'un des fameux inventaires à la Prévert. Voici un extrait du célèbre « Salut à l'oiseau », un poème en guise de programme politique. Nous lirons ensemble, cher Gaël, voulez-vous ? Je te salue,
oiseau des villes,
oiseau des sous-sols,
oiseau des égoutiers,
oiseau des charbonniers et des chiffonniers,
oiseau des casquetiers de la rue des Rosiers.
Je te salue,
oiseau du pavé,
oiseau des prolétaires,
oiseau du 1er mai.
Je te salue,
oiseau civil,
oiseau du bâtiment,
oiseau des hauts fourneaux et des hommes vivants.
Je te salue,
oiseau des femmes de ménage,
oiseau des bonhommes de neige,
oiseau du soleil d'hiver,
oiseau des enfants assistés.
Je te salue,
oiseau des bohémiens,
oiseau des bons à rien,
oiseau du métro aérien.
Je te salue,
oiseau des jeux de mots,
oiseau des jeux de main.
Oiseau des jeux de vilains,
je te salue.
Oiseau du plaisir défendu,
oiseau des malheureux, oiseau des meurs de faim.
Oiseau des filles mères et des jardins publics,
oiseau des amours éphémères et des filles publiques.
Je te salue,
oiseau des permissionnaires,
oiseau des insoumis.
Oiseau du ruisseau, oiseau des taudis.
Je te salue,
oiseau de la cloche,
oiseau de la misère.
Je te salue,
phénix fort,
et je te nomme
président de la vraie république des oiseaux. Abdelatif Lahabi.
La poésie, c'est le lieu où la langue est sauvée, parce que dans ce désordre généralisé du monde dans lequel nous vivons, il y a une autre victime dont on ne parle pas généralement, c'est la langue. La langue se dégrade, la langue est polluée, la langue ne sert plus l'imaginaire. Parce que, comme n'importe quel citoyen, je subis le matraquage médiatique, par exemple. Enfin, c'est le discours des politiques, c'est le discours des spécialistes, c'est le discours des experts. Voilà des discours morts qui assassinent la langue à chaque instant. Eh bien, la poésie est le lieu où on peut encore mener cette bataille pour sauvegarder la langue, pour la sauver, pour en faire justement le lieu de l'imagination, le lieu de la beauté.
Ça peut pas faire de mal.
J'étais très ému de faire cette émission avec vous, Gaël Kamilindi. Et je salue encore votre entrée à la Comédie-Française. C'est un honneur pour nous. Cette émission a été réalisée par Xavier Pistugia avec à la technique Éric Boisset. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge, Claire Tesser et Fanny Leroy. Un grand merci à Christine Delterme pour son aide précieuse pour préparer cette émission consacrée, je le répète, au printemps des poètes. Bonne soirée et à la semaine prochaine.